Il est 18h30 à Paris, je vous laisse en compagnie de Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Et bonsoir Marion, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Notre coup d'œil à RFI Soir, le programme de ce jeudi dans 30 minutes après le journal de Gilles Moreau, la température qui ne cesse de monter. Quelle cause, quelles conséquences au record de chaleur de ces derniers mois? Comment y faire face? Réponse dans le rendez-vous de la rédaction. Ce sera le grand événement la nuit prochaine aux États-Unis, le discours de Joe Biden sur l'état de l'Union, exercice imposé mais importance toute particulière cette année pour le président. En sortant évidemment à 8 mois de l'élection à la Maison Blanche, on décryptera ces enjeux avec notre invité. 19h30 dans une heure, Afrique Soir, la toute première édition de ce jeudi, ce sera avec Zéphirin Quadio, mais pour le moment c'est l'heure de votre débat.
Le débat du jour, Romain Ozoui.
Demain, c'est la Journée internationale des droits des femmes et parmi les sujets qui devraient être portés, il y a la lutte contre les violences sexuelles, car dans le sillage du mouvement MeToo, les langues se sont déliées, la parole semble s'être libérée. Mais aujourd'hui, le constat est tout simplement affligeant. En France, seulement 1% des violences sexuelles et sexistes sont sanctionnées. Alors ça concerne évidemment les femmes en premier lieu, mais ça concerne également les enfants. Et dans ce cadre-là, il faut saluer la lutte contre l'inceste qui tente de progresser. Ça concerne également les hommes, avec le récent hashtag MeTooGarçon. Notre question ce soir, est-ce que la parole est entendue? Pourquoi ce décalage entre celles et ceux qui témoignent et la prise en compte des violences subies? Comment faire avancer la cause? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI, le débat du jour.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio. Emmanuelle Piette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente du collectif féministe contre le viol, qui a pour mission d'accompagner les victimes de viol ou d'agression sexuelle. Face à vous, Karine Bourdier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, coprésidente de l'association des avocates pénalistes. Et enfin, Lisa Serrero, bonsoir.
Bonsoir.
Défenseuse des droits humains, autrice du livre Nos survivantes, que j'ai la même en studio. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, il y a un nom qui est beaucoup revenu ces dernières semaines en France dans le cadre de cette lutte contre les violences sexuelles. C'est celui de Judith Godrèche, l'actrice qui accuse les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon de viol. Il y a une prise de parole de Judith Godrèche qui a été particulièrement observée. C'était lors de la cérémonie des Césars. Et pour lancer ce débat, je vous propose d'écouter un court extrait de ce discours.
Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tanguer. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face, prendre nos responsabilités, être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question? Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge.
Alors la parole est-elle entendue? C'est la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. Je parle, mais je ne vous entends pas, répond Judith Godrèche. Lisa Serrero, pour les besoins de votre livre, Nos survivantes, vous êtes allée à la rencontre de femmes victimes de violences sexuelles. Est-ce qu'elles ont le sentiment aujourd'hui d'être entendues?
Alors je pense que avant même de parler, il y a un très très long processus qui s'enclenche. Avant même de parler, disons que c'est à la fois la fin d'un processus et en même temps le début d'un nouveau. Parler, ça veut dire déjà avoir mis des mots sur ce qu'on a vécu, ça veut dire avoir pris conscience qu'on a vécu une violence sexuelle. C'est être capable déjà de se voir soi-même comme victime et de l'accepter. Et c'est dépasser une culpabilité énorme. Le viol, ça reste probablement le seul crime pour lequel les victimes se sentent coupables. Mmh. Et souvent plus coupables que l'auteur, d'ailleurs. Donc il y a déjà tout ce processus-là, tout ce qu'il a fallu traverser pour parler. Et puis une fois qu'on a parlé, alors là, c'est soit une descente aux enfers, soit le début d'une reconstruction. Et donc toutes les victimes que j'ai interviewées, toutes ont appréhendé ce moment de la révélation et ça a mis des années. Il y a très peu de victimes qui parlent tout de suite. Ça prend des années, surtout si ça a lieu dans l'enfance. Et puis ça prend des années parce que culpabilité, parce que honte, parce que amnésie traumatique parfois, parce que stress post-traumatique. Et puis, il y a aussi ce chiffre qui est que dans 90% des cas, l'auteur des violences sexuelles est connu de la victime. Et donc, s'il est connu de la victime, on peut imaginer qu'il est aussi connu de l'entourage. Et donc, c'est ça aussi qui est gênant. Je pense que le silence qui est évoqué par Judith Godrèche, c'est aussi ça, c'est l'incapacité des individus à mettre cette étiquette d'agresseur sexuel sur des gens qui, a priori, nous semblaient très sympathiques.
On se demande ce soir si la parole est entendue. En fait, ce que vous dites ce soir, c'est que la parole est encore très loin d'être libérée. finalement, la lame de fond MeToo n'a pas abouti.
Alors, ce que disent souvent les associations féministes, et Emmanuel Piette dira, mais c'est que les femmes ont toujours parlé, mais qu'elles n'étaient pas entendues. Ouais. Et là, ce qu'on observe, c'est que finalement, elles parlent effectivement de plus en plus depuis MeToo, mais quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a davantage de condamnations? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a moins de violences sexuelles? Pas vraiment. Il y a eu le rapport du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes qui est sorti en début d'année et qui montre que les stéréotypes de genre ne baissent pas, voire augmentent pour certaines tranches ouais. d'âge. Donc finalement, qu'est-ce que ça a apporté, tout ça? Moi, j'ai le sentiment que ça a surtout apporté une forme d'empowerment, on va dire, pour des femmes qui se disent « Ah, ben tiens, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi ». Et donc, cette vague comme ça qui permet de libérer, de se sentir délestée d'un poids. Mais derrière, est-ce qu'il y a eu vraiment un changement de fond? En fait, qu'est-ce que ça veut dire entendre aujourd'hui?
Mais effectivement, en tout cas, la situation c'est absolument pas arrangée. Elle s'est peut-être détériorée. Vous faites écho à cela, Lisa Serrero, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui affirme que le sexisme perdure et que ses manifestations les plus violentes s'aggravent. Emmanuel Piette, que vous disent les victimes de viol ou d'agressions sexuelles que vous accompagnez, que vous rencontrez? Est-ce qu'elles ont le sentiment, elles, que leur parole est plus entendue aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'elles sont plus capables de témoigner, de parler?
Alors, nous, on gère une ligne téléphonique qui s'appelle Viol Femmes Information depuis 1985. Et on a fait des premiers groupes de parole. Quand on a commencé, elles n'avaient pas parlé ou elles avaient parlé et elles n'avaient jamais trouvé quelqu'un qui les entendait. C'est pas le tout de parler. Mmh. Il faut encore être entendu, cru, et puis qu'on en fasse quelque chose. Parce que même si on les croit et qu'on fait rien, c'est pas terrible. Et on avait fait des groupes de parole et le premier groupe de parole que nous avons fait, avec 8 femmes victimes d'inceste, eh ben, le titre qu'elles avaient donné à leur film en 87 avec Carole Rossopoulos, c'était « La conspiration des oreilles bouchées ». C'est-à-dire que déjà à l'époque, ce qu'elles disaient, c'est qu'elles criaient dans le désert, que personne ne voulait les entendre. Et ça, ça n'a pas vraiment changé. Ce qui change, c'est qu'il y en a de plus en plus qui parlent. Elle parle de plus en plus tôt. Nous, quand on a commencé, il y avait des femmes. Moi, je me souviens, une femme de 80 ans qui disait « J'étais violée à 4 ans. Jamais je n'ai été entendue. Vous êtes les premières à me croire et à m'entendre. » Et puis, on avait en même temps les petites filles qui disaient « J'ai mis des punaises. Demain, je vais mettre des ficelles. Qu'est-ce que je fais après-demain ?» Donc, on avait les deux. Mais le temps s'est raccourci. On n'a plus 40 ans, 50 ans. On les a eues de nouveau quand on a ouvert la ligne de la CIVIS, la Commission indépendante contre l'inceste et les violences sexuelles à enfants. Donc en 2021, on a ouvert une ligne qui s'appelait « Violences sexuelles dans l'enfance ». Et là, de nouveau, on avait des gens qui parlaient après 20 ans, 30 ans, 40 ans de silence après la violence.
Vous avez cité un exemple qui date de plus de 35 ans. Oui. Et en écho, je vais citer ces quelques mots d'une tribune qui a été publiée aujourd'hui. Dans le monde d'un collectif de 400 écrivaines, éditrices et enseignantes-chercheuses, face à ces crimes, face à tous ces témoignages d'injustice, nous avons le sentiment que l'omerta règne en puissance. Ça fait complètement écho à ce qui s'est passé il y a 35 ans que vous citiez ce témoignage. Les agresseurs se font passer pour des victimes, ainsi se poursuit la violence en refusant la reconnaissance. Karine Bourdier, je vais vous donner la parole dans un instant, évidemment, pour évoquer ce qui peut se passer ou ce qui se passe au niveau judiciaire. Mais Lisa Serrero, d'abord, pourquoi la parole n'est pas entendue et par qui elle n'est-elle pas entendue en premier lieu? Est-ce que c'est par justement l'institution judiciaire? Est-ce que c'est par l'entourage?
Les deux. L'entourage, il n'est pas outillé, il n'est pas formé pour accueillir cette parole, alors même que au quotidien, ce sont les conjoints, les conjointes, les parents, les frères, les sœurs, les amis qui sont en contact avec ces victimes de violences sexuelles. Mais ces personnes-là, elles n'ont pas du tout les clés pour comprendre ce que traverse une victime. Elles ne comprennent pas les mécanismes du stress post-traumatique, des crises d'angoisse qu'on peut avoir, des cauchemars, des odeurs qui peuvent raviver des douleurs, des dates un peu anniversaires. Il y a toutes ces choses-là qui émaillent un peu le quotidien et qui font que quand on est le proche ou la proche d'une victime de violences sexuelles, on n'a pas du tout les outils pour la comprendre et l'accompagner, et encore moins pour répondre à ses besoins. Et du coup, il y a quand même un enjeu de santé publique qui est fort.
C'est ce que j'allais dire. Vous préconisez quoi? Une forme de sensibilisation de la part de l'autorité publique?
En tout cas, d'apprendre à écouter. Déjà, d'apprendre à écouter, parce que les mécanismes de domination, on peut aussi les répéter dans la manière qu'on a d'écouter et d'accompagner. L'injonction à aller mieux. « Ah, mais ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, tu vas te remettre maintenant, c'est bon, c'est passé. » Voilà, il faut passer à autre chose. Et la temporalité des victimes est forcément pas celle de l'entourage, encore moins celle de la justice. Et donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de clés pour comprendre. On l'a beaucoup entendu hein, quand Judith Godrèche a parlé récemment. « Ah, mais quoi, elle se réveille maintenant ?» Mais c'est forcément mal attentionné. Forcément, c'est pour attirer la lumière. Il y a forcément quelque chose. Donc, c'est nier, c'est étouffer, c'est minimiser.
Ça, ça n'a pas évolué. En 2017, vraiment, le mouvement MeToo avec l'affaire Weinstein, Emmanuel Piat évoquait les premiers témoignages de la ligne qui a été ouverte en 1985. On est en 2023.
Des témoignages, 2024, en tout cas, que j'ai pu récolter, non. C'est-à-dire que, en tout cas, l'entourage a une responsabilité folle dans la reconstruction des victimes. Et en fait, le déni prend encore une place énorme.
Karine Bourdier, avocate, coprésidente de l'Association des avocates pénalistes. Je donnais ce chiffre que je trouve affligeant en début d'émission. 1% des auteurs de violences sexuelles et sexistes qui sont sanctionnés. Pourquoi ? Est-ce que la justice ne fait pas son travail ?
Alors moi, je trouve que c'est toujours très compliqué de manier les chiffres dans cette matière. Je comprends très bien que ce soit le fait de mouvements militants et je trouve que c'est tout à fait bienvenu. C'est le rôle des mouvements militants que d'essayer de faire avancer la société et de faire avancer la justice avec elle en maniant des chiffres. Sur le plan des statistiques judiciaires pures, quant au fait qu'ils ne seraient pas poursuivis et qu'ils ne donneraient pas lieu à condamnation, on manque de données fiables et on manque de données sur lesquelles on peut raisonner. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que, si je veux rebondir là juste sur ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a un peu deux choses que ça m'évoque. C'est-à-dire que la première, c'est qu'on est, j'ai l'impression, un peu en train de solder une époque. Une époque pendant laquelle, effectivement, il y avait la honte, il y avait la chape de plomb, il y avait la difficulté à parler, il y avait le manque d'acception dans la culture commune de la recevabilité de la parole de la victime de viol. Ça, j'ai l'impression, moi, qu'on est en train de solder cette époque un peu, de plus en plus en tout cas, et qu'effectivement, les femmes mettent plus 40 ans à dire, et ensuite à être accompagnées par des gens compétents, éventuellement militants et compétents, qui les accompagnent dans leur dépôt de plainte et ensuite dans tout le processus judiciaire. Mais il y a aussi autre chose que je voudrais soulever, c'est que moi, je suis là aussi pour sortir des clichés sur le fonctionnement de la justice. Je ne dis pas que c'est ce qui vient d'être dit, mais c'est ce qu'on peut entendre parfois et c'est ce qu'on peut lire parfois. Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois ce qu'on prête aux auteurs d'agressions comme propos. J'entends ce que vous disiez à propos de la tribune d'aujourd'hui, disant les agresseurs se font passer pour des victimes, et ça fait référence aux agresseurs connus, hein, à ceux qui font l'actualité aujourd'hui, l'actualité brûlante sur ce sujet aujourd'hui, évidemment. Mais le quotidien de la justice, c'est une justice qui connaît sa révolution et sa mutation profonde aussi depuis une dizaine d'années, qui accueille les victimes, qui accueille les plaintes et qui a développé un sens de l'écoute qui est majeur. Alors le rôle de la justice, ça ne peut pas être de dire, comme c'est le rôle des militants, de dire « on vous croit ». La justice, elle fonctionne sur un système de preuves dans notre pays et c'est une garantie démocratique pour tout le monde, pour les victimes et pour les personnes mises en cause. Donc elle ne peut pas fonctionner sur le principe de « on vous croit ». Il n'empêche que la justice, elle a développé depuis plusieurs années et en parallèle du mouvement MeToo, vraiment des pratiques qui font qu'elle écoute aujourd'hui et qu'elle écoute avec compétence. Elle est de mieux en mieux formée, les magistrats sont de mieux en mieux formés à l'écoute des victimes, on le voit tous les jours dans les cabinets d'instruction ou dans les tribunaux correctionnels. Et elle est de plus en plus apaisée par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle a une écoute, si ce n'est bienveillante, en tout cas, elle a une écoute ouverte qui va laisser à chacun la possibilité de dire ce qu'il a à dire, à la victime de dénoncer, aux mises en cause de se défendre, en essayant à la fin de savoir s'il y a des preuves pour entrer en voie de condamnation.
Il y a une écoute, mais les affaires n'aboutissent pas cependant.
Quelles affaires n'aboutissent pas ? Rentrez, poussez la porte des tribunaux correctionnels. Okay. Tous les jours, vous verrez dans les tribunaux correctionnels, par exemple à Paris, pas très loin d'ici, des chambres qui sont quasiment entièrement dédiées à des affaires de violences sexuelles et de violences intrafamiliales. Vous avez, tous les professionnels vous disent que l'accroissement des peines de prison qui sont aujourd'hui données par rapport à il y a 5 ans, il y a 10 ans, est considérable. En cour d'assises, on a quasiment doublé sur le quantum des peines qui sont prononcées par les juridictions, entrer dans les cabinets d'instruction, aller voir les juges d'instruction qui ont ces dossiers. Moi, j'en vois tous les jours. Ouais. Ils reçoivent les victimes, ils les écoutent. En revanche, Il y a un vrai problème majeur qui est un frein à leur travail et à la qualité de ce que l'œuvre de justice puisse prospérer, effectivement. Et ça, moi, c'est la seule chose que je regrette, c'est-à-dire qu'on ne mette pas plus l'axe vraiment là-dessus. C'est-à-dire que si on leur donnait un peu plus les moyens... Vous savez, les magistrats, aujourd'hui, c'est à 70%, 80% des femmes. Le corps de la magistrature aujourd'hui, c'est quasiment à 80% des femmes. Laissez-moi vous dire qu'elles n'ont pas besoin d'être déconstruites, comme bien on sûr. Le dit, des mâles dominants à qui on reproche toujours d'exercer la force du patriarcat. Mmh. Elles n'ont pas besoin de ça. Elles sont parfaitement au fait des débats actuels et elles y adhèrent même quand vous leur parlez en off, en dehors de leur travail. Donc, si en revanche... on leur donne les moyens de travailler sans crouler sous les dossiers, en ayant la possibilité de réagir rapidement. Je pense vraiment que là, on verrait une amélioration substantielle de la qualité de la réponse pénale.
Hélas, la question des moyens, elle touche tous les domaines de la justice. Mais d'un mot, il n'y a pas un décalage pour vous entre les plaintes déposées et l'aboutissement de ces plaintes ?
Ce que je peux vous dire, rapidement. Ce que je peux vous dire, oui, mais pour en avoir discuté et en discuter régulièrement, par exemple, avec des procureurs de la République qui sont en charge de l'opportunité des poursuites et donc de saisir l'appareil judiciaire à partir du moment où ils ont une plainte et une enquête de police, c'est que quand ils classent, aujourd'hui, en 2024, c'est vraiment à regret qu'ils le font. Et c'est vraiment parce que dans leur dossier, ils n'ont pas le plus petit début d'éléments de preuve extérieure à la parole de l'un contre la parole de l'autre pour faire en sorte que ce dossier connaissent une suite judiciaire. Ils le font à regret, c'est quasiment un crève-cœur pour certains, de se dire, là, si je poursuis dans ce dossier, en fait, ça va être un calvaire pour la victime plutôt que le résultat espéré.
Violence sexuelle, la parole est-elle entendue ? C'est le débat de ce soir. Emmanuel Piette, je vous ai vu lever les yeux aussi,
oui.
Elle, présidente du collectif féministe contre le viol.
Oui, je pensais par exemple à l'étude faite au ministère de la Justice où, à partir d'une révélation d'enfant pour viol et la mise et la fin de l'affaire juridique, en moyenne, il s'est 112 mois, c'est-à-dire plus de 9 ans. Pour un petit de 7 ans, on aura une protection pour cet enfant au bout de 112 mois. C'est trop long. Et puis, quand même, la petite Lina qui a disparu et qu'on recherchait, et ben, tout d'un coup, la procureure s'est mise à ressortir une affaire qu'elle avait classée où Lina était venue porter plainte pour viol par deux hommes qui avaient reconnu la pénétration. Et à cette époque, elle avait 13 ans. Et on était après le 21 avril 2021. Et on avait quand même classé. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer. Et c'est comme ça, parce que tout d'un coup, elle a eu honte, elle l'a ressorti. Mais je me dis, moi, à partir des 77 000 témoignages qu'on a eus de femmes victimes, là, on a envoyé pour le 8 mars en cadeau à la ministre la façon dont les femmes ont été reçues dans les commissariats. Et bien, sur 8 jours, on avait 15 histoires horribles où les plaintes n'ont pas été prises, où les femmes n'ont pas été entendues, où on leur a dit que quand même, elles n'auraient pas dû traîner là où elles traînaient, que ça ne serait pas arrivé, ou qu'elles parlaient parce qu'elles avaient couché avec leur copain et qu'elles ne voulaient pas se faire engueuler. Donc, quand même, on a énormément de plaintes pas prises et la justice, des tas de moments, elle classe sans avoir vraiment cherché.
RFI, le débat du jour.
Violence sexuelle, la parole est-elle entendue ? Je vous donne la parole, Karine Bourdier, dans un instant, avocate co-présidente de l'Association des avocats pénalistes, Emmanuel Piette, que l'on vient d'entendre, présidente du collectif féministe contre le viol, Elisa Serrero, défenseuse des droits humains, autrice du livre Nos survivantes, Karine Bourdier.
Je veux juste réagir là à ce que vous venez de dire, Madame Piette, parce qu'il y a quelque chose qui me paraît tout à fait pertinent par rapport à ça, c'est qu'il y a 2 ans, par exemple, on a assisté à ce qu'on a appelé le mouvement double peine, au cours duquel un certain nombre de femmes très importantes a fait état effectivement de l'accueil en commissariat et en service de gendarmerie, duquel il est résulté par exemple la modification de la loi permettant l'accompagnement par un avocat lors du dépôt de plainte devant les services enquêteurs. Donc ça, je ferai encore une distinction moi là-dessus sur l'accueil vraiment devant les services d'enquête qui progressent mais qui progressent plus lentement et l'accueil par les juges judiciaires et les magistrats du ministère public. Alors après, on peut toujours agiter des chiffons rouges qui effectivement vont résonner sur l'émotion. Personne n'a envie que des enfants se fassent violer dans ce pays, moi pas plus qu'une autre évidemment. Mais
160 000 sont violés tous les ans.
Si vous voulez, je peux vous dire vraiment, enfin, et puis on les connaît, nous on les voit, les dossiers dans lesquels on est obligé ensuite de faire de la pédagogie justement en tant qu'avocat et d'expliquer parfois pourquoi ça a été classé sans suite. Et l'immense majorité des dossiers qui sont classés sans suite, c'est des dossiers qui auraient donné lieu à une suite judiciaire s'il y avait eu des éléments extérieurs à la seule plainte permettant d'étayer les accusations.
Lisa Serrero, là, on touche peut-être à ce qu'il y a de plus sensible, la question des violences sexuelles. Pourquoi est-ce que la justice avance si lentement. Pourquoi est-ce qu'on continue à parler d'omerta dans le fait d'entendre ou de ne pas entendre cette parole? Pourquoi est-ce qu'il faut parler de laxisme? Et je peux vous poser la question, à qui profite le crime d'une certaine manière?
En fait, je pense que ça tient à une raison, c'est que l'immense majorité des victimes sont des femmes. Et qu'à partir du moment où on est femme et qu'on vit dans une société patriarcale, c'est-à-dire qui va venir forcément des valeurs qui vont venir infuser la justice, dans la police, dans un système de santé qui porte lui aussi des stéréotypes de genre très fortement. Le système de santé ne se vit pas dans un système extérieur à cette société. On porte un regard tout à fait différent à la parole des femmes, alors des enfants en général, et puis ensuite des femmes lorsqu'elles sont adultes. Donc je pense que tant que il n'y aura pas un système de valeurs qui aura évolué en général dans la société, puis ensuite dans nos institutions, on continuera à minimiser, à avoir de l'exagération, à avoir de l'hystérie, à prêter de mauvaises intentions à la parole de ces femmes-là.
On a parlé sensibilisation à l'entourage pour être capable d'entendre la parole des victimes, mais en fait ce que vous nous dites, c'est que pour lutter contre les violences sexuelles, il faut agir aussi en amont, et par exemple quand on parle d'égalité femmes-hommes, c'est ainsi qu'on peut garantir, préserver, anticiper, se prémunir d'eux.
Bien sûr, je pense que les associations féministes demandent, en tout cas depuis des années, des moyens dans l'éducation et pas uniquement dans la répression et pas uniquement dans la formation des magistrats ou des agents de police, mais qui est effectivement, un travail de formation pour avoir une vraie vision d'égalité femmes-hommes et une lutte contre les stéréotypes de genre. Oui.
Emmanuel Piat, est-ce que vous êtes d'accord? Ça révèle une société patriarcale, point. Le fait qu'aujourd'hui, la parole ait tant de mal à être entendue concernant les violences sexuelles qui touchent en premier lieu, nous le rappelait Lisa Cerero, les femmes.
Et les enfants. 160 000 enfants sont violés tous les ans, 96 000 femmes adultes, c'est presque 300 000 personnes par an, et c'est moins de 1000 condamnations tous les ans aux assises ou dans les cours criminels maintenant, par an. Donc, c'est-à-dire que même si on était par rapport au déclaratif, c'est oui, bien sûr, on est dans des sociétés qui ont utilisé les enfants depuis la nuit des temps, les violer, les tuer, les mutiler, etc. On s'améliore un peu, on commence à dénoncer, on commence à trouver ça inacceptable. Il n'y a pas très longtemps qu'on trouve anormal de taper sa femme, donc on est... Et le viol conjugal n'existe en France que depuis 1990. Donc on est dans une société qui commence à penser que c'est anormal de violer et de tabasser les enfants.
Mais je vous repose la question que j'ai posée à Lisa Cerero, pourquoi ça avance aussi lentement?
Moi, je trouve que c'est extrêmement rapide. Dans
c'est
les
un
50,
déni,
c'est extrêmement rapide.
C'est d'accord. On continue, vous dites...
On avance d'une façon... Et quelquefois, j'ai l'impression même que le politique trouve qu'on avance trop vite, alors il nous dit arrêtez la chasse à Oulahom.
Lisa Cerero.
Je veux bien rajouter... Il y a aussi, on a quand même très longtemps entendu, on l'entend encore maintenant, que ces violences sexuelles, c'est l'œuvre d'un fou, d'un déséquilibré, d'un malade mental qu'on a rencontré. Le fameux agresseur qu'on rencontre la nuit dans un parking qui débarque de nulle part. Un fou. Et donc, je pense que c'est aussi très difficile pour une grande partie de la population de se dire, en fait, ces fous n'existent pas. Il y a des personnes de plus en plus nombreuses qui disent les monstres n'existent pas. Et en fait, c'est nos parents, nos pères, nos grands-pères, nos oncles, nos amis, nos collègues de travail qui sont ces personnes-là en réalité. Et je pense que ça, c'est très difficile de coller cette étiquette d'agresseur sur ces personnes-là. Ça peut être nous-mêmes, d'ailleurs. Et donc, ça demande une telle introspection, un tel regard sur soi-même. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de personnes d'accepter que, finalement, les violeurs, les agresseurs sexuels, ils sont partout autour de nous. On n'est pas sur une exception, un mythe du violeur, en fait, qui n'existe pas. Les personnes qui agressent sexuellement sont des personnes de notre entourage. Ces personnes-là agressent très souvent sans violence. Ça se passe dans le silence. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu compris. Et c'est aussi pour ça qu'on reproche aux victimes. Mais pourquoi t'as pas crié? Et pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Mais pourquoi t'y retournais? Pourquoi t'as continué à le voir? Voilà. Et c'est toutes ces subtilités-là qui sont compliquées à comprendre.
Et est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Piat, qui, malgré tous les chiffres terribles qu'elle vient d'annoncer, que finalement, la lutte progresse rapidement aujourd'hui?
ça avance. Alors moi, je trouve que voilà, sur l'aspect judiciaire, ça avance très lentement. Sur l'aspect de la prise en charge en termes de santé, ça avance très lentement. D'avoir des soignants et des soignantes qui soient vraiment formés à ces questions-là et qui puissent proposer un parcours de soins. Il y a les maisons des femmes qui se développent. Ça, c'est de bon côté. Ça permet d'avoir du pluridisciplinaire, d'éviter à des femmes, par exemple, de raconter à 15 interlocuteurs différents ce qui leur est arrivé. On raconte une fois son histoire et puis on va avoir une assistante sociale, une gynécologue, une art thérapeute. Voilà, d'avoir toutes ces personnes-là réunies, ça c'est typiquement le genre de choses qui permet à des femmes de se reconstruire plus vite et de ne pas avoir à subir sans cesse ce récit traumatique.
Karine Bourdier, sur la réponse judiciaire aux victimes de violences sexuelles, vous qui êtes présidente de l'association des avocats pénalistes, est-ce qu'il y a des modèles à l'étranger dont la France pourrait s'inspirer ? Est-ce qu'il y a des pays où ça va plus vite ?
Bah, la France, elle réfléchit beaucoup. Hein. Je veux dire, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de travaux de recherche et de concertation qui sont faits et qui cherchent à s'inspirer de ce qui se fait en Belgique, qui cherchent à s'inspirer de ce qui se fait en Espagne, qui regardent du côté du Canada, qui regardent... Oui, bien sûr, c'est des questions qui infusent... Tout le monde réfléchit. Des articles sont écrits tous les jours par des magistrats, par des avocats, par des chercheurs de la doctrine. Non, c'est vraiment un sujet... Enfin bon, moi, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut et que la justice soit toujours voilà, un peu le bouc émissaire sur lequel on ait envie tout de suite de jeter l'anathème. Moi, je vis dans la même société patriarcale que tout le monde et je constate les écarts de salaire qui existent encore et je constate effectivement que c'est toujours les filles qui débarrassent le lave-vaisselle et pas les garçons. Et je constate que persistent encore ces stéréotypes de genre dans notre société qui la gangrène.
Mais Emmanuel Piette rappelait aussi les violences à l'égard des enfants.
Et
on sort du modèle patriarcat, ou en tout cas du modèle...
Non, c'est la même chose.
Oh, c'est la même chose.
Vous les englobez.
Le fermier bat sa femme, la femme bat son enfant,
Et là-dessus, je veux dire, les violences à l'égard des enfants, vous n'allez pas voir un juge d'instruction qui va vous dire « Oui, ben, c'est pas grave, parce que je suis un représentant du patriarcat et que vraiment,
on a quand même quelques femmes incarcérées parce qu'elles essayent de protéger leurs enfants. »
Ah bah, ça... alors ça, vraiment, je veux dire, moi, ce que je vois avec les presque 80 000 personnes qui sont incarcérées aujourd'hui, c'est en quasi-exclusivité des hommes, et que si une plainte est déposée contre vous aujourd'hui et qu'on vous poursuit pour des faits de viol, qui plus est, sur un mineur, vous avez quand même un nombre très important de passer directement par la case prison. Hein, je vous le dis. Voilà, alors c'est tout un système d'ensemble qui a à réfléchir. Moi, ce qui m'interroge, c'est que... En fait, en abordant toujours cette question-là sous l'angle de la répression et de la critique vis-à-vis de l'institution judiciaire...
Non, on a d'abord aussi évoqué agir en amont, la sensibilisation, l'éducation...
Oui, mais qui pourtant fait sa mutation. Effectivement, moi, je trouve que sur la question de l'éducation, par exemple, on est encore quasiment à la préhistoire. Ouais. Pour que dans la tête des hommes et des femmes qui font notre société, qui nous écoutent en ce moment, vont au travail tous les jours, rentrent chez eux le soir, vraiment les choses bougent et les choses changent, il ne faut pas que leur agiter l'épouvantail de la répression et de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire les violences faites aux femmes et faites aux mineurs. Bien sûr que c'est extrêmement important, mais ne l'aborder que sous l'angle de la justice est défaillante et fait pas son travail,
non.
Moi je suis désolée, mais au quotidien, c'est pas ce que les praticiens, nous, on constate.
Lisa Serrero.
Avant même d'aller sur les défaillances de la justice, en amont, il y a le fait, ce chiffre qui est quand même important, c'est que seuls 10% des victimes de violences sexuelles vont porter plainte.
Ouais.
Donc il y a quand même 9 femmes sur 10, 9 victimes sur 10 en tout cas, qui ne vont pas porter plainte. Et donc, il y a vraiment aussi un questionnement là-dessus, de se dire pourquoi il y a une question de manque de légitimité. C'est-à-dire qu'on a des femmes, des victimes en général, qui sont amenées aussi à douter de leurs propres paroles. On en arrive là, à avoir des victimes qui se disent bah, « Alors, est-ce que je vais être crue ? Mais finalement, est-ce que je ne l'ai pas un petit peu cherché quand même ? Mais en même temps, je suis montée chez lui. » Voilà. Et donc, du coup, tout ça aussi, ça participe à venir à ce que des victimes viennent elles-mêmes délégitimer leurs paroles, à appréhender évidemment ce qui peut se passer en commissariat et avoir assez peu d'espoir sur leur chance d'avoir l'auteur condamné. Et encore une fois, vraiment, le fait que ce soit des proches qui soient très souvent les auteurs, on a quand même des victimes qui ont peur de mettre un sacré bazar dans leur famille, au travail.
Eh bien, violence sexuelle, la parole loin d'être entendue, on pourrait répondre à ce débat, même si je retiens ce que vous dites, que les choses avancent et plutôt rapidement. Merci beaucoup à vous trois, Lisa Serrero, défenseuse des droits humains, autrice du livre Nos Survivantes. Karine Bourdier, merci, avocate, co-présidente de l'association des avocates pénalistes. Et merci à vous, Emmanuel Des avocats pénalistes.
Des avocats.
Ah, des avocats pénalistes, Emmanuel.
Des avocats Emmanuel et des avocates,
Piette, si vous voulez. Présidente du collectif Féministe contre le viol. Merci à vous trois. Florence Ponce était à la préparation de ce débat. Merci à elle et merci à Alice Ménard qui était à la réalisation.